Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est aujourd'hui que le président français Emmanuel Macron présentait ses vœux à la presse pour la nouvelle année. C'est l'occasion de revenir sur des relations pas toujours simples depuis le début du quinquennat, entre le verrouillage de la communication, une tentative de court-circuitage des médias traditionnels, puis une adaptation depuis quelques semaines, jusqu'aux critiques très vives contre la presse et notamment l'audiovisuel public. Ces rapports sont assez emblématiques d'une défiance des politiques de tous bords et plus généralement de la société envers la presse traditionnelle. Les journalistes et les médias sont-ils un problème dans la vie publique? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. François Jost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, directeur de la revue Télévision et auteur de « La méchanceté en acte à l'ère numérique ». C'est chez CNRS Éditions. Ne le cherchez pas tout de suite, ça sort le 18 janvier. Et Benjamin Bousquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France Info, la radio de service public du groupe Radio France, et auteur de « Journaliste, l'ennemi que l'on adore » aux éditions Panthéon 2017, qui est sorti l'année dernière. On le disait en introduction, il y a une certaine défiance des politiques en général vis-à-vis de tout ce qui est journalisme et presse traditionnelle. Il y a tout ce qu'on vient d'évoquer. Et puis il y a eu en fin d'année ces mots du président de la République qui ont été retranscrits et largement commentés dans la presse. L'audiovisuel public est la honte de la République. Une loi a été annoncée pour la rentrée lors des vœux du président Emmanuel Macron. François Jost, est-ce qu'il y a une reprise en main de l'audiovisuel public à attendre?
Alors on peut l'imaginer, d'autant plus que l'une des solutions qui est envisagée, c'est de refaire un grand groupe télévisuel comme l'ORTF a existé dans le temps, donc c'est un peu un retour. Je pense que le propos du président Macron n'était pas seulement sur l'information, c'était sur la gouvernance,
la création,
sur les programmes, sur la création, etc. Alors, pour moi, c'est tout à fait exagéré, évidemment, de dire que c'est une honte, parce que je pense au contraire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le service public. Effectivement, il s'agit aujourd'hui, comme il l'a répété, de s'adapter à de nouveaux usages. C'est ça, sans doute, qui est important.
Alors, Benjamin Bousquet, vous êtes, comme moi, vous faites partie de la honte de la République, si on peut dire ça comme ça. Comment est-ce que vous avez ressenti, vous, ces vœux du président Macron? Comment vous sentez ces relations entre le politique et le président en particulier et la presse, disons, traditionnelle?
Qu'il faille changer et améliorer les choses dans l'audiovisuel public, pourquoi pas? Après, les propos d'Emmanuel Macron quand il parlait de honte de la République, vous le concéderez, il y a eu plusieurs versions aussi.
Il y a eu
des gens qui ont dit il n'a pas tout à fait dit ça. Enfin voilà, c'était
il parlait essentiellement de France Télévisions.
Voilà, c'était pas exactement. Enfin, on ne sait pas exactement la teneur dans ce cadre privé. Après, que le président de la République s'investisse personnellement sur cette question, ça peut être intéressant. Je pense que on sort d'une année électorale où les gens, le grand public, s'est posé beaucoup de questions sur le traitement médiatique, sur la relation entre les journalistes et les politiques. Donc une refondation de tout ça pour davantage expliquer et être pédagogue à l'égard du grand public, moi je prends ça comme quelque chose de positif. Après, il faudra voir dans quelles circonstances ça se fait. Est-ce que la liberté des journalistes sera la même, etc. C'est ça les questions qu'il y a derrière.
François Jost.
Le problème, j'avais fait une tribune dans Le Monde sur ce sujet il y a quelque temps. Le problème, c'est de savoir si, en voulant tenir compte des nouveaux usages qui sont horizontaux, qui permettent à chacun de s'exprimer, etc., on ne fait pas une relation totalement verticale. Parce que ce qu'a dit le président Macron, c'est il faut finalement éduquer. Or, le service public, pour l'instant, était dans cultiver, informer, distraire, pas forcément éduquer, qui est une relation verticale. Donc, il faudrait pas qu'on revienne à un modèle contradictoire avec l'évolution des techniques audiovisuelles.
Alors, parmi le prélude de cette réforme qui est annoncée, il y a eu des demandes d'économies pour les médias de l'audiovisuel public et ça s'est dans un premier temps reporté contre peut-être le budget de certaines émissions d'information à la télévision. Est-ce que ça, Benjamin Bousquet, pour vous, c'est un signal de défiance?
C'est toujours assez négatif quand on enlève des moyens financiers, j'allais dire, aux journalistes et aux cellules d'investigation. Après, il y a une réflexion plus globale à avoir, où le public lui-même doit avoir un rôle à penser, c'est quel prix on est prêt à donner à l'information. L'information, c'est devenu un besoin primaire dans nos sociétés, comme se vêtir, se loger, se nourrir. Mais pour ces besoins que je viens d'énumérer, et vous considérez avec moi qu'il faut payer. Il faut payer des vêtements, il faut payer de la nourriture. L'information, ça a un coût. Est-ce que les gens sont prêts aussi à mettre ce prix-là pour être informés? Aujourd'hui, c'est de nature de critiquer beaucoup le travail des journalistes. On critique facilement, c'est la cible facile des journalistes.
Est-ce que c'est souvent autant, la faute des journalistes.
Voilà. Hein, ouais. Est-ce que pour autant on donne suffisamment de moyens à ces journalistes-là? C'est pas sûr.
Je crois que ce qu'a dit le président Macron aujourd'hui était quand même assez intéressant, parce que j'ai l'impression que il voulait il a parlé de la valeur qu'on donnait la valeur ajoutée que chaque corporation, chaque métier pouvait ajouter, c'est-à-dire savoir qui transformait vraiment l'information. Donc, l'information, c'est effectivement quelque chose qui se transforme, qui se travaille, et c'est pas quelque chose de brut. Il a dit quelque chose que je trouve aussi très intéressant, c'est le fait que les journalistes étaient des auteurs. C'est une chose importante, parce que finalement, si on parle des fake news, qui ont été un des grands sujets aussi de son discours, précisément n'ont pas d'auteur. C'est-à-dire c'est des choses qui viennent selon des milieux, etc., informés, on ne sait jamais d'où ça vient.
Qui sont rarement assumés, effectivement.
Voilà, qui ne sont pas assumés. Et ce qui fait le métier de journaliste, et qui fait qu'on en a besoin, c'est de venir autoriser l'information, hein, il a rappelé l'autorité, etc., mais venir autoriser, c'est-à-dire que cette information est signée par quelqu'un qui s'engage sur cette information.
Je reviens sur l'aspect économique. Est-ce que les difficultés économiques de la presse et puis le budget resserré pour les entreprises de presse, est-ce que c'est une façon, un moyen de tenir cette presse, François Josse? Est-ce que ça peut être un moyen de pression?
Sans doute, mais je pense que de toute façon c'est vrai que les économies qui sont demandées, on voit pas pourquoi elles iraient sur la presse, alors qu'on peut faire des économies sûrement structurelles dans les bureaux et dans les métiers, mais que personne n'ose les faire véritablement, parce qu'évidemment c'est plus dangereux d'un point de vue des social.
Benjamin Bousquet.
Les baisses de budget peuvent empêcher certains journalistes de travailler sur certains sujets, donc il y a peut-être un muselage de la presse dans ce cas de figure. En même temps, avec Internet, la possibilité de créer des plateformes très facilement, etc., penser que par l'économie on va museler tous les journalistes, ça me paraît un peu utopique, de toute façon.
Alors, des partis créent leurs médias ou usent de médias alternatifs. C'est le cas de la France Insoumise, qui va lancer Le Média. C'est comme ça que ça s'appelle dans les prochaines semaines. La République En Marche voulait également lancer un média. Pourquoi est-ce que ces partis politiques, ces créateurs d'idées, si je peux dire ça comme ça, pourquoi est-ce qu'ils veulent contourner la presse traditionnelle, François Jost?
Moi, je trouve ça effectivement un petit peu inquiétant, parce que si vous voulez, on est passé d'une...
Pour ce qui est de la France Insoumise, il y a une défiance qui est assumée, quoi.
Oui, il y a une défiance vis-à-vis de l'information, des grands médias télévisuels, etc. Bon, moi, en tant que professeur sciences de l'information et de la communication, j'étudie le journal télévisé avec mes étudiants depuis 30 ans pour être gentil. Ça veut pas dire pour autant que je pense que l'information est mauvaise. Comme j'ai toujours dit à mes étudiants, comment vous feriez à la place du journal pour rendre compte du monde? Parce que c'est ça la question. Comment on rend compte du monde? La France Insoumise a l'air de soupçonner que qu'il y a encore cette pesanteur de l'État sur les informations, que le fameux cordon ombilical n'est pas coupé, etc. Moi, je crois que avoir une télévision qui sera faite par un parti, c'est bien plus inquiétant que savoir qu'il y a une information de service public qui a forcément des relations avec le pouvoir, mais qui peuvent être plus harmonieuses que celles d'un parti avec un... d'information.
Benjamin Bousquet.
Les deux cas sont un peu différents entre la France Insoumise et la République En Marche. La France Insoumise, on a l'impression que c'est un peu la continuité aussi de ce qui s'est passé pendant la campagne.
Avec la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, et surtout, la France Insoumise, au même titre que les Républicains et le Front National, parmi les quatre candidats qui sont arrivés en tête au premier tour de la présidentielle, c'était les trois qui ont fait huer des journalistes, qui ont remis en question le travail des journalistes, etc. Et c'est un petit peu plus surprenant pour La République En Marche, qui justement n'avait pas forcément fait subir ce même traitement aux journalistes.
Oui, c'est vrai que ça s'est pas passé de cette manière-là.
Il y avait même un jeu de séduction. Quelque chose d'inquiétant depuis Sarkozy, je crois, dans le fait que chacun a ses équipes pour venir rendre compte des meetings et que
les images sont fournies par les candidats.
Oui,
c'est ce que vous voulez dire.
C'est ça que je veux dire. Oui, c'est que c'est les équipes qui tournent les images et donc
ouais, le processus était déjà créé. En fait,
oui, il était déjà créé sous Sarkozy et ça a continué après pour tous les grands politiques. Et évidemment, on peut soupçonner que c'est beaucoup moins objectif que quelqu'un qui n'est pas concerné par la réalité.
Est-ce que c'est payant, Benjamin Bousquet?
Oui, oui. Non, je voulais juste dire. Après, moi, je veux pas insulter par avance l'intelligence des auditeurs, des lecteurs et des téléspectateurs. Je pense que les gens sont assez intelligents pour. On verra ce que ça donnera aussi avec la chaîne de la France Insoumise, le média, en l'occurrence, ça commence de mi-janvier, il me semble.
C'est ça, oui.
On verra ce que ça donne, on verra le contenu. Et très vite, on verra aussi les limites de ce type de médias.
Mais finalement, c'est presque une tradition française, la presse d'opinion, François Jost, depuis le 19e siècle.
Oui, c'est vrai. Alors, si c'est de la presse d'opinion, très bien, mais c'est pas ce que prétend être le média. Mm-hmm. Dans les déclarations pour l'instant, il serait question de quelque chose d'assez objectif, etc. On a un peu du mal à le croire.
Et en creux, l'idée que le reste n'est pas forcément objectif. Voilà. Est-ce que c'est payant, politiquement, Benjamin Bousquet, de taper sur les médias et sur les journalistes? Est-ce que c'est une réflexion que font peut-être des politiques en disant « les journalistes sont impopulaires ». Si je leur tape dessus, de toute façon,
eh bien, surfer sur la vague de la méfiance envers les journalistes, ça peut être une technique. Après, ce que je disais tout à l'heure, justement, sur les quatre candidats qui sont arrivés en tête au premier tour, celui qui est arrivé devant, c'est celui qui n'a pas surfé sur cette vague, bizarrement, pendant la campagne. Donc, je ne sais pas si ça explique. Je ne veux pas partir dans des théories fumeuses. Je ne sais pas si ça explique le fait qu'il soit arrivé devant les autres. Il y a plein d'autres critères qui expliquent
ça. Non, il y a évidemment
plein d'autres choses. Mais finalement, en tout cas, ça ne suffit pas.
Je pense que ce qui est dangereux, si vous voulez, c'est de surtout de taper pas seulement sur les journalistes, mais sur les médias en tant que tels. Parce qu'en fait, le problème actuel, c'est le désamour envers les médias et pas seulement envers les journalistes. C'est-à-dire que on n'a plus confiance dans l'institution elle-même, et là, ça fait partie évidemment, ça donne la porte ouverte à tous les populismes. C'est-à-dire que dire, de toute façon, c'est l'élite, ils ne nous comprennent pas, on ne peut pas s'exprimer.
Oui, il y a une défiance de la société. Là, on va aller au-delà du politique. Le baromètre annuel de Lacroix sur la confiance dans les médias, il est en cours de réalisation. Il sort en principe début février chaque année, mais il y a fort à parier qu'il sera encore une fois assez négatif.
Oui, il était en baisse. Il était en baisse, en fait, depuis, en gros, l'affaire de Timișoara en 1989, la révolution roumaine. Et c'est vrai que la perte de confiance, c'est pas seulement les journalistes en tant que personnes, c'est les médias. Et c'est ce qui fait que, pour beaucoup de jeunes, de toute façon, le média qui informe, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux.
Benjamin Bousquet.
Oui, il y a énormément de critiques qu'on peut faire aux journalistes et qui expliquent ce désenchantement et puis ce des amours du public.
Et en même temps, c'est une profession qui continue à faire rêver. Hein.
Et en même temps, oui. D'ailleurs, c'est très paradoxal, mais pas pour tirer la couverture sur mon livre, mais j'ai voulu écrire ce livre parce que justement, moi, ce métier me passionnait depuis beaucoup d'années. Et je comprenais pas paradoxalement qu'il suscite autant de méfiance chez les autres. Donc c'est pour ça. Enfin voilà, ce métier continue à faire rêver, mais il suscite de la méfiance. Après, je pense que on parlait tout à l'heure de médias d'opinion. Je pense que l'opinion a pris quelquefois le pas sur l'information. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment que les journalistes et éditorialistes qui squattent un petit peu les plateaux télé et radio commentent plus qu'ils n'informent. Et du coup, il y a un sentiment général de détachement. On a l'impression que les journalistes sont détachés de la réalité des gens, alors qu'en réalité, les journalistes sont des gens comme tout le monde.
François Jost, ce sont les têtes de gondole qui font du tort aux journalistes, si je peux dire ça comme ça.
Vous voulez dire les éditorialistes?
J'ai lu le terme d'éditocrate.
Oui, mais bien sûr. Moi qui ai fait pendant 5 ans des billets chaque semaine sur le site de l'Obs, sur le site le plus de l'Obs, j'ai pu voir effectivement combien il y avait aussi une crainte, enfin une peur des élites contre les élites. C'est d'ailleurs quelque chose dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire que les gens se sentent coupés du monde des journalistes. C'est en ça que c'est un microcosme. ils se sentent pas concernés. Et c'est vrai que très souvent, on a vu que le petit milieu journalistique, sur, par exemple, n'a jamais cru à l'élection de Macron, en un sens. Hein.
Oui, jusqu'au dernier moment.
Jusqu'au dernier moment. Voilà. Ou de même pour Trump, il y a eu personne, tous les journalistes, aucun journaliste ne croyait à l'élection de Trump aux USA, alors qu'il suffisait sans doute d'aller dans le Colorado ou ailleurs pour se rendre compte.
Est-ce qu'il y a un problème d'entre-soi, culturel, économique, et pourquoi pas, et on va oser le dire, racial? Est-ce que les médias ne reflètent pas la diversité? Benjamin Bousquet, c'est quelque chose qui leur est reproché?
Moi, honnêtement, pour vivre le métier de l'intérieur, faisant partie d'une rédaction, j'ai pas cette sensation d'entre-soi. Après, on parlait d'éditorialiste ou éditocrate, comme vous avez dit. C'est vrai, ces sentiments. Moi, à titre personnel, j'ai rien contre un éditorialiste. Ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans d'expérience, qui a des apports culturels, historiques, pour mettre un peu de profondeur dans des débats d'actualité. Après, moi, ce que je reproche, c'est le fait que l'éditorialisme a vraiment pris le pas sur l'information. Et c'est ça que les gens redoutent, en fait, je pense.
Le fait, par exemple, que sur des télévisions d'infos en continu, je ne stigmatise personne, on mette pendant plusieurs heures des éditorialistes qui commentent une micro-information. C'est la porte ouverte à toutes
les... Je vais vous donner un exemple très, très rapide. J'ai regardé BFM TV, vous savez, au moment où Valls était un peu malmené par En Marche lors des élections législatives.
Oui.
Il y avait quatre éditorialistes qui parlaient de ça, et l'animateur entend dans son oreillette que Marion Maréchal Le Pen arrête la politique. Alors il l'annonce, et alors les quatre éditorialistes présents se sont levés tels des suricates en plein désert, et ils ont débiné un argumentaire de 10 minutes qui était déjà prêt, en fait, chacun, alors qu'on ne connaissait pas à l'époque les raisons pour lesquelles elle avait vraiment démissionné, etc. Et là, en regardant la télé, je me suis dit, du calme, faut pas toujours être aussi pressé.
François Jost, vous avez évoqué tout à l'heure, et je vous ai dit qu'on allait en parler, le phénomène des fake news, des fausses nouvelles. Il y a aussi là une loi qui est annoncée par Emmanuel Macron pour lutter contre les fausses nouvelles, notamment en période électorale. C'est un phénomène mondial, en fait. Pourquoi est-ce que les gens, une partie de la population, en tout cas, ne s'informe plus que via les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors, d'abord,
c'est perte de confiance, effectivement.
Oui, il y a la perte de confiance, effectivement. Il y a le fait, la lutte contre les élites, c'est-à-dire la relation verticale, c'est-à-dire aujourd'hui être dans l'horizontalité, et le fait qu'au fond, on est en train de se demander si les journalistes font bien ou mal leur travail, etc. Mais chacun veut être journaliste. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, chacun est journaliste. Moi, je suis très frappé par le fait que, mettons une mort de quelqu'un de célèbre, la mort de Johnny Hallyday, vous la voyez sur BFM, vous la voyez sur l'AFP, enfin bon, etc. Puis après, vous avez des tas de gens qui relaient l'information pensant que c'est eux qui apprennent aux autres que Johnny Hallyday est mort. Donc, il y a cette volonté de chacun d'être journaliste. Alors ça produit des fake news, si vous voulez, simplement parce que justement, ils n'ont pas le métier des journalistes, et que, par exemple, le 13 novembre 2015, lors de l'attentat qu'on connaît, il y a eu sur Twitter des gens qui disaient il y a un autre attentat qui s'est produit à Beaubourg, et c'était évidemment totalement faux, il n'y a pas de vérification, mais on a envie d'avoir un scoop et d'être relayé, retweeté par d'autres. Donc c'est presque endémique, si vous voulez, la fake news.
Benjamin Bousquet.
Ouais, Emmanuel Macron a évoqué la question des fake news. Évoquer la question, pour moi, c'est un bon signe. Après, dans les solutions apportées, il y a débat. Je pense que la censure contre les fake news n'est pas toujours la bonne solution, parce que de toute façon, on le sait, quand un site de fake news disparaît, un autre va être créé, etc. Il y a une certaine éducation aux médias à transmettre aux gens. Alors, éducation, qu'on s'entende, c'est bien, il s'agit pas d'inculquer une idéologie en disant tu vas lire tel média plutôt qu'un autre, mais plutôt,
non, mais apprendre à vérifier.
Voilà, apprendre à vérifier comment consommer aussi. On parlait de droit à l'information, ça doit aussi s'accompagner de devoir de s'informer. Comment s'informer, à quelle fréquence, quels médias on consomme, etc.
Ça, c'est une variété de médias peut-être aussi.
Oui, bien sûr. On a une chance en France qui s'appelle le pluralisme. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger dans des pays où le pluralisme n'était pas aussi fort. Et il faut à la fois qu'on soit exigeant et en même temps pas enfant gâté.
Merci Benjamin Bousquet, merci à vous également François Jost d'avoir participé à ce débat. C'est déjà terminé, merci à toute l'équipe du débat du jour, Arthur Tossou, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation ce soir, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI. Prochain débat demain, même heure, même endroit. D'ici là, bonjour chez vous.